bulle de musique, une émission proposée par Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la première fois dans Folle de musique, nous aurons deux invités et pour la première fois, une femme. Florence Fourcassier, qui est flûtiste, et Domingo Mujica, qui est altiste. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour, Catherine.
Nous sommes réunis pour parler de deux événements. Décidément, aujourd'hui, tout marche par deux. Tous deux organisés par les Clés de Saint-Pierre. Mais auparavant, je vous propose une présentation de ma première invitée. Florence Fourcassier, vous êtes toulousaine. Vous avez suivi un cursus pour apprendre la musique et la flûte dans divers conservatoires à Toulouse et à Paris, jusqu'au CNSM de Paris, où vous obtenez le premier prix de flûte et de musique de chambre en 1990. Après avoir joué dans de grands orchestres symphoniques sous la direction de chefs prestigieux tels Celibidache, Bidach, Boulez ou Bernstein, rien que ça, j'arrivais pas à le croire quand vous me l'avez dit, vous revenez à Toulouse et intégrez l'orchestre national du Capitole, alors dirigé par Michel Plasson, où vous partagez le pupitre de flûte avec une parfaite parité de garçons et de filles. Florence, c'est assez rare, non ?
Je pense que les filles commencent à être de plus en plus présentes dans les orchestres. Et c'est vrai que c'est pour moi un apport joyeux. Souvent, quand on a des supplémentaires, actuellement, ce sont souvent des supplémentaires femmes, ça rigole un peu.
Alors, nous allons citer vos trois camarades.
Oui. Donc, il s'agit de François Laurent, qui est flûte solo, Sandrine Tilly, qui est flûte solo aussi, et Claude Roubichoux, qui est piccolo solo.
Très bien. Et vous-même, flûte traversière, on précise, puisque j'ai fait beaucoup d'émissions sur la musique baroque où l'on joue plutôt de la flûte à bec.
Oui.
Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour parler du Capitole, mais des Clés de Saint-Pierre. Clés de Saint-Pierre, c'est une association qui s'appelle Internaute, mais on va dire les Clés de Saint-Pierre pour simplifier, qui fête bientôt ses 10 ans. Voulez-vous nous présenter cette association, Florence ?
Eh bien, c'est une association qui est donc née en 2000, qui a pour but de jouer de la musique de chambre. Donc, ce sont des musiciens de l'orchestre qui proposent des œuvres, d'autres musiciens qui choisissent pour organiser 5 concerts dans la saison. Et nous organisons tout de A à Z, de la création des documents au contact avec la presse ou la radio, comme aujourd'hui, au concert, y compris l'organisation le soir du concert.
C'est une organisation amicale, bénévole, ou ce sont
bénévole,
les musiciens
oui,
qui font tout.
J'oublie de dire que nous avons quand même l'aide aussi de bénévoles non musiciens qui travaillent énormément à toute l'organisation de cette saison.
Je vous propose une pause musicale avec vous-même, Florence, à la flûte traversière et vos camarades des Clés de Saint-Pierre. Un extrait qui a été enregistré, comme tous les extraits que nous allons écouter dans cette émission, enregistré en concert au Clé de Saint-Pierre, par Bruno, je vous laisse prononcer son nom.
Bruno van der Elst, qui est un des partenaires des Clés, qui nous aide depuis le début.
Et qui a créé des archives formidables de tous vos concerts, qui vont beaucoup nous servir.
Thank you.
Florence, quatuor de flûte a pour titre Le Lynx. Il est tiré d'une œuvre qui s'appelle Les Chats. Je vous laisse présenter le compositeur, les interprètes.
Mais c'est une œuvre donc de Marc Berthaumieux. Et c'était François Laurent à la première flûte, Claude Robichoux à la seconde, moi-même à la troisième. Et c'était ajouté Cécile Robillard qui jouait pour l'occasion de la flûte alto, c'est-à-dire la plus grosse flûte.
Oui, un petit peu plus grave que les autres. Donc, nous avons choisi cet extrait parce qu'il s'appelle, et là, il porte des noms d'animaux, et nous allons voir que nous allons beaucoup parler d'animaux au cours de cette émission, car le samedi 19 juin, les Clés de Saint-Pierre ouvriront au public les portes du paradis musical, pour une grande fête au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Quel est le concept de cette journée ?
Eh bien, c'est une journée d'anniversaire, donc nous avons cherché un lieu différent de notre lieu habituel, puisque nous jouons habituellement toujours à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, et nous avons cherché un endroit qui nous permette de faire quelque chose de différent. Parce que nous allons pouvoir donc jouer dans plusieurs lieux à la fois. C'est une journée qui va commencer vers 13h30 pour finir dans la nuit. Pas trop tard, on espère. Et où il y aura en particulier de 13h30 à 16h plusieurs interventions simultanées à différents endroits du muséum, en particulier des fanfares dans les jardins, des pièces ayant un lien justement avec les animaux, par exemple, dans les collections.
Muséum oblige,
voilà.
Bien sûr.
Des présentations d'instruments à l'intention des enfants, puisque le muséum a quand même une mission
pédagogique.
Et en même temps, à l'auditorium, puisqu'ils ont un auditorium de 188 places, 5 petits concerts successifs, avec des pièces un petit peu plus intimes, avec la harpe, des trios et des pièces qui seront présentées, expliquées.
Le concept, donc, c'est la fête, c'est une folle journée autour des musiciens de l'Orchestre du Capitole,
oui.
Mais qui n'a rien à voir avec l'Orchestre du Capitole, c'est-à-dire des musiciens de l'Orchestre du Capitole dans leur activité des Clés de Saint-Pierre,
oui.
Avec d'autres invités, des solistes qui font pas partie de l'équipe d'habitude.
Toute cette journée a été basée sur des œuvres qui ont déjà été jouées au cours de toutes les saisons passées des Clés de Saint-Pierre, des 9 ans passés. L'année dernière, donc pendant la saison dernière, on a organisé un vote du public. Tout notre public a voté sur 3 concerts et il en est ressorti toutes les pièces qu'il préférait, que j'ai essayé donc de mettre en œuvre et de présenter dans le muséum. Chaque pièce étant mise en valeur par un lieu, on a essayé de choisir des musiques qui correspondent à des lieux. Et principalement, la pièce qui a été la plus demandée par notre public était le Carnaval des animaux.
Ça tombe bien, puisque c'est au muséum, ou est-ce que...
On a trouvé, c'était lié. Si vous voulez, l'idée de fêter les 10 ans avait déjà germé depuis quelque temps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on y est, qu'on est sur ce projet. Et le Carnaval ayant eu énormément de succès, c'est vrai que c'était tout trouvé, quoi. Et donc, le carnaval sera donné 2 fois, une fois l'après-midi à 16h30 dans le grand carré, c'est-à-dire le hall d'entrée du muséum, un petit peu plus à l'intention des enfants qui seront là dans la journée. Et aussi, dans le grand carré, on donnera un concert le soir, un concert debout, avec quand même quelques chaises pour les personnes un peu fatiguées, mais principalement debout. Et le carnaval sera le clou de ce concert du soir. Parce que c'est un carnaval un peu particulier, il est mis en scène, donc avec un récitant qui ne raconte pas le texte de Francis Blanche qui est connu, mais un texte qu'il a écrit lui-même, donc il est écrivain et interprète en même temps.
Nous en écouterons un extrait à la fin de cette émission, mais avant de dérouler le programme de cette journée, sonner fanfare, résonner cuivres et cors, cette folle journée commence dans les jardins du muséum avec des cuivres.
Thank you.
Incroyable adaptation, transcription de West Side Story de Leonard Bernstein par des cuivres lors d'un concert. Ce sont tous des cors ?
Non. Vous avez deux trompettes, un trombone, un cor et un tuba.
C'est très original. C'était Tonight, qui est plutôt une chanson mélancolique d'habitude ou romantique, et là, qui était vraiment très entraînante. C'est ce qui va ouvrir le bal de cette folle journée. Et ensuite, on va rencontrer surtout donc des concerts qui sont en lien avec les animaux, la musique. Vous pouvez nous donner un petit peu quelques titres du programme particulièrement dans cette thématique.
Donc, nous avons choisi sous la passerelle. C'est à l'entrée du muséum pratiquement. Un petit endroit tranquille où nous allons donner plutôt des quatuors Mozart, quatuors avec flûte, quatuors avec hautbois et une sérénade de Beethoven. C'est dans l'esprit sérénade. Pour l'instant, là, il n'y a pas encore tout à fait le lien avec les animaux.
Non.
Et plus loin, sous le squelette de la baleine, ça se précise parce que j'ai trouvé quand même au milieu des squelettes intéressant de faire jouer le quatuor La jeune fille et la mort. Et aussi le rendez-vous de chasse qui a un quatuor de corps. Et les fameux chats que vous avez écoutés en début d'émission, puisque c'est à côté de l'exposition des animaux, toutes les animaux.
Alors, La jeune fille et la mort de Franz Schubert, qui a écrit aussi un quintette que l'on nomme La truite, même si je suis pas sûre que ce soit lui qui ait donné ce titre, on va en écouter un extrait.
La chance de participer à ces concerts avec Damien Lou Vergne, ma femme Mary Randalls et Benoît Chapeau. Et il y avait Elisabeth Matak au piano. Et Olivier Amiel, pardon, j'ai oublié Olivier.
Donc Schubert sera assez présent dans cette journée d'anniversaire des clés de Saint-Pierre au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y aura des invités extérieurs qui viennent juste par amitié, par amour,
oui.
pour de vous soutenir, en particulier le pianiste, puisqu'il n'y a pas de
voilà.
piano.
Voilà, nous avons voulu respecter les groupes qui avaient joué dans les années précédentes et qui se sont reconstitués généralement, enfin pratiquement, il n'y a pas eu d'exception, avec grand bonheur. Tout le monde est content de se retrouver et les pianistes n'ont pas hésité une seconde, même à venir de Paris pour passer la journée avec nous. Donc on a été très heureux de leur réaction et on est très heureux de les accueillir.
Oui, il y a beaucoup de grands noms. Bon, Anne Le Bozec, on le sait, a un duo avec votre camarade Sandrine Tilly. Raphaël Oleg habite Toulouse. Malheureusement, on ne les voit pas assez souvent. Ils jouent et du violon et de l'alto. David Bismuth est un pianiste dont on parle beaucoup. Enfin, on ne peut pas les citer tous, mais c'est vraiment très sympathique de venir vous rejoindre pour cette grande fête de la musique avant le 21 juin, puisque ce sera le 19 que vous faites votre fête de la musique. Alors, la découverte des instruments pour les enfants, on en a parlé. Les billets qu'il faut prendre pour les concerts dans l'auditorium à partir de 13h, étant donné qu'il n'y a que 180 places, il faudra réserver la tranche horaire dans laquelle
voilà,
on veut aller écouter exactement. La musique de chambre. Les renseignements pratiques, alors je donne le numéro de téléphone du muséum, qui est le 05 67 73 84 84. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse a également un site internet www.museum.toulouse.fr. Et puis vous, Florence, vous êtes occupée d'un dépliant que vous allez distribuer dans tout Toulouse.
Voilà, à l'accueil du muséum, vous pourrez trouver donc le dépliant avec toutes les explications, les horaires, le détail des interventions, les numéros de téléphone que vous venez de donner. Et il y aura aussi des précisions dans le journal du muséum, qui est trimestriel, je crois. Et vous pourrez trouver aussi, je crois, dans certains journaux spécialisés qui annoncent les événements du muséum pour les enfants, à l'intention des
J'imagine
enfants.
J'imagine aussi à l'Office du tourisme de Toulouse, au prochain concert
des clés de Saint-Pierre. On espère pouvoir distribuer tout ça pour notre public.
Voilà, et dans tous les lieux fréquentés par le public toulousain. Nous allons nous quitter, Florence, avant de passer à ce fameux concert du 26 avril avec Domingo, par évidemment l'œuvre qui est un petit peu la charnière de cet anniversaire des Clés de Saint-Pierre, le Carnaval des animaux. Vous nous en dites un petit mot de ce que nous allons écouter?
Donc ce que vous allez entendre, c'est au tout début l'entrée du dompteur, qui donc va présenter la soirée, et puisque vous allez le comprendre assez rapidement, les musiciens ne sont pas des musiciens, ils sont des animaux.
Bonsoir. Je suis très heureux ce soir et un petit peu ému, parce que c'est la première fois que je présente un numéro de dressage dans un site pareil, mais c'est un numéro exceptionnel, messieurs, unique au monde. En effet, je suis le premier de ma génération, puisque de père en père, de fils en fils, nous sommes dresseurs dans la famille, à avoir réussi ce numéro qui va permettre à des animaux de jouer de la musique. Cependant, vous aurez remarqué l'absence de grilles, de fossés ou de toute autre protection. Je vous demanderai donc de faire très attention à ce que vous faites à partir de maintenant. Éteignez vos téléphones portables, ça les rend dingues. Jetez vos fourrures. Cachez vos habits de couleur. Et bien entendu, ne les touchez pas, ne leur donnez pas à manger. Et ne les regardez pas trop dans les yeux. Bon, ceci étant dit, nous allons pouvoir vous interpréter le Carnaval de Saint-Saëns. Allez, hop, on arrive, on arrive.
Laurence, le Carnaval des animaux a été écrit pour la famille de Camille Saint-Saëns, mais c'est un concert théâtre, je ne sais pas comment il faut dire, qui plaît aux tout petits comme aux grands.
Oui, bien sûr. Les adultes se sont complètement pris dans le jeu. Et c'est vrai que pour nous, j'ai eu un regard un peu différent parce que ce sont nos collègues que nous voyons. Voilà, habituellement, ils sont sérieux. Là, je peux vous garantir qu'ils ne le sont pas du tout. Et c'est très drôle. Nous allons d'ailleurs écouter maintenant l'extrait, le passage de l'éléphant.
La fête se conclura par ce formidable carnaval des animaux où le récitant Christian Brasier sera le dresseur de ces drôles d'animaux que sont les musiciens. Un spectacle donné deux fois et à ne pas manquer. Je rappelle qu'elle aura lieu au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui a entre dans ses murs le restaurant de Gérard Garrigue, qui est un grand chef étoilé toulousain. Oui, et qui offre des repas très originaux et un petit peu exotiques.
C'est un endroit magique où il y a une terrasse, on voit le pan qui fait la roue quand on est en train de manger.
Et les bruits de pan au printemps. Oui.
Voilà, et donc le muséum nous a accueillis à bras ouverts. Vraiment, ils ont été adorables et vraiment intéressés par notre projet. Ils nous ont aidés à mettre tout ça sur pied. Actuellement, ils nous aident beaucoup pour tout ce qui est communication aussi. Et donc Gérard Garrigue, pour sa part, sera là et offrira un service entre 18h45 et 20h15, entre la fin du concert de l'auditorium et le début du concert du soir qui a lieu dans le Grand Carré.
Peut-être faudra-t-il réserver. Alors je souligne que tous les concerts des Clés de Saint-Pierre pour cette journée-là sont gratuits, que pour certains il faut tout de même prendre un billet et réserver ses places. Et que ce qui est payant, c'est uniquement sur le ticket d'entrée du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Eh bien, Florence, je vous remercie beaucoup, mais vous restez avec nous puisqu'on continue avec les Clés de Saint-Pierre, avec Domingo, qui lui va nous parler du prochain concert, qui est lundi 26 avril, puisque c'est toujours le lundi jour où les musiciens du Capitole font relâche, comme on dit.
Oui, c'est notre jour de congé hebdomadaire.
Alors, ce sera lundi 26 avril à 20h. C'est intitulé Destination New York. C'est un hommage à Antonin Dvorak. Domingo Mujica, je vous laisserai parler très vite de ce concert, mais auparavant, je me permets de vous présenter à nos auditeurs, même si tous les fans de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse vous connaissent déjà de vue, puisque vous êtes toujours en premier rang des altis et d'oreilles, puisqu'on connaît bien votre bel alto. Vous êtes né au Venezuela, vous avez débuté l'alto, vous jouez un très large répertoire de Telemann à Bartok avec l'Orchestre Symphonique de Caracas. Vous travaillez également l'alto à la Juilliard School de New York. Nous allons voir que cela a un double lien étroit avec ce concert Dvorak, personnel et musical. Et dès l'âge de 23 ans, vous entrez à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, comme Florence sous la blaguette de Michel Plasson, et vous enseignez au Conservatoire de Toulouse.
C'est exact, je n'aurais pas pu le dire mieux que...
En 2005, avec la complicité de trois autres musiciens, toujours du Capitole, vous créez le Quatuor Kaleido. C'est donc cette formation qui jouera le 26 avril au Clé de Saint-Pierre.
C'est exact, oui. Nous avons choisi le Quatuor Kaleido parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que nous travaillons ensemble et que nous sommes vraiment très enthousiastes pour cette soirée.
Alors, quels sont les membres du Quatuor?
Alors, les membres du Quatuor, il y a Benoît Chapeau au violoncelle, il y a Olivier Amiel au deuxième violon, Mary Randalls au premier violon et moi-même à l'alto.
Alors, quand je disais que votre passage à la Juilliard School avait un double impact sur ce concert, c'est que vous y aviez rencontré Mary, qui était également étudiante et qui joue dans votre quatuor. Mm-hmm. Donc, le rapport direct avec New York, puisque Dvorak a été à New York dans
les années 1880.
Juste 100 ans avant vous.
Oui, exactement. Ouais.
Pratiquement, donc, bon anniversaire à vous aussi. Et je crois que Dvorak jouait de l'alto également.
C'est exact. Dvorak a joué de l'alto avant qu'il devienne le compositeur qu'aujourd'hui on connaît. Il faisait de l'orchestre à Bratislava sous la direction de Smetana.
Ah, carrément. Ouais. On l'a échappé belle parce que je crois que son père voulait qu'il soit boucher.
Oui,
ça aurait été dommage pour la postérité.
Comme Berlioz, il était médecin, oui. Tous les pères, ils imposent au grand génie de la musique autre chose. Mais
alors,
ils s'échappent, tous ils s'échappent.
Heureusement, parce que ça nous permet d'avoir ce magnifique quatuor à cordes numéro 12, dit America. Domingo, ce quatuor est donc une œuvre maîtresse de ce concert du 26 avril. Il y aura d'autres œuvres, toujours avec votre quatuor, plus un piano?
Oui, alors c'est Irène Blondel, qui est professeure au CRR de Toulouse depuis un certain nombre d'années, et qui est notre amie chère, parce qu'on était voisins lorsqu'on habitait à Toulouse, ma femme et moi. Et donc, on a eu un lien superbe avec la famille et surtout avec leurs parents. Et voilà, alors on a choisi Irène parce que non seulement elle est une très bonne pianiste, mais elle est super sympa.
C'est une très bonne raison. Ouais. Et je crois que d'ailleurs, quand les musiciens s'entendent bien entre eux, le public le ressent également et prend beaucoup de plaisir.
J'en suis sûr, ça se ressent dans la musique.
Oui, bien sûr, Florence.
C'est une des bases des Clés de Saint-Pierre, c'est que généralement, les gens jouent ensemble par choix, par plaisir, et ça se ressent immédiatement.
Bien sûr, et le public le partage, et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on aime aller aux Clés de Saint-Pierre. Donc ce concert du 26 avril va être évidemment très très plein. C'est le dernier des 5 concerts de la saison des Clés de Saint-Pierre, qui recommencera l'année prochaine, j'imagine, au mois d'octobre ou quelque chose comme
mi-octobre.
Ça.
Mi-octobre.
Bon, nous nous reverrons à cette occasion, je l'espère. Pour réserver, il faut appeler le 06 63 36 02 86 ou bien acheter vos places à la FNAC et chez tous les marchands de qui vendent les places de concert. L'association des Clés de Saint-Pierre, on n'a pas dit quand même l'association des Clés de Saint-Pierre, c'est la présidente.
Ah, c'est José Simonetta.
C'est José, oui. José Simonetta. À l'origine, il y avait notre ami Guy Roguet qui nous a quittés il y a quelques années, qui était violoncelliste historique de l'orchestre du Capitole.
Un des nos chevaliers.
Voilà. Et donc, les Clés de Saint-Pierre ont la gentillesse d'offrir aux auditeurs de Folle de Musique deux places pour ce concert. Pour cela, il suffit de téléphoner à Altitude FM au 05 61 71 90 90. Dans la séquence suivante, l'opéra dans la publicité, nous retrouverons Manon Lescaut, qui elle aussi est en Amérique, mais hélas pour un exil où elle ne rencontrera que la mort, alors que Dvorak, lui, y connaît le succès. Il a été donc directeur du conservatoire de New York. Domingo, racontez-nous un petit peu son séjour américain.
Dvorak, il a été invité pour restructurer le Manhattan School of Music, qui s'est battu pour avoir la même notoriété que la Juilliard, avec tous les grands professeurs et tout ça. Donc Dvorak, qui était un renommé déjà, un compositeur renommé de l'époque,
européen,
est venu pour prendre les rênes de cette école.
Donc il a connu là le succès, il a composé trois œuvres maîtresses de son répertoire.
De son répertoire, oui. Notamment l'Équateur américain que nous allons jouer.
Un concerto pour violoncelle.
Exactement, et aussi la symphonie Nouveau Monde.
Que tout le monde connaît, la 9e symphonie. Pourquoi tous les compositeurs s'arrêtent à 9 symphonies? Vous avez une explication?
Je crois que c'est un numéro mythique entre eux, mais.
Parfois, ils ne le font pas exprès.
Non, je crois que leur vie se déroule tellement. Difficilement qu'ils arrêtent juste à la 9e.
Après son séjour fructueux à New York, Dvorak revient dans sa Bohème natale et à Prague. Et c'est curieux parce que nous allons donc écouter maintenant un extrait de Manon Lescaut de Puccini, qui a été créé en 1893, exactement à la même date que la Symphonie du Nouveau Monde. Nous allons écouter cet extrait que vous ne jouerez pas, puisqu'il faut un grand orchestre pour jouer une symphonie, mais que vous avez bien dû interpréter tous au Capitole.
Ah oui, on la connaît bien, ça fait partie de notre répertoire.
C'est un grand tube de la musique classique, symbole d'espoir et de lendemain qui chante, tel ceux que je vous souhaite à tous les deux et aux Clés de Saint-Pierre. Je vous remercie beaucoup d'être venus, Florence et Domingo, au revoir.
Merci Catherine, au revoir.
Des Clés de Saint-Pierre vous donne deux rendez-vous lundi 26 avril à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour découvrir avec le quatuor Kaleido les évocations de l'Amérique de Dvorak, les grands espaces, le gospel, les chants des Indiens ou le train du Far West du splendide quatuor américain. Le deuxième rendez-vous est le samedi 19 juin à partir de 13h30 au Muséum d'Histoire Naturelle où plus de 50 musiciens et des milliers d'animaux vous attendent pour célébrer les 10 ans des Clés de Saint-Pierre. Les airs de folie. Aujourd'hui, l'opéra dans la publicité avec la complicité d'Hubert Stocklin. Cher Hubert, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, nous allons encore parler d'une histoire triste. Il faut dire que dans l'opéra, elles sont souvent très tristes.
Mais oui, mais bon...
Mais la musique est belle.
Quand c'est beau, ma foi. Et c'est pour de faux, c'est pas des vrais malheurs.
Parfois, ce sont des vraies histoires. Mais voilà. Là, il s'agit donc de Manon Lescaut, qui est un drame lyrique italien de Giacomo Puccini, qui est né en 1858 et mort en 1924, donc déjà au XXe siècle.
Et oui, c'est un musicien du XXe siècle. Mais Manon Lescaut n'est pas encore un ouvrage du XXe siècle.
Non,
juste à la charnière.
C'est tiré d'un, le livret a été tiré d'un livre de l'abbé Prévost qui s'appelle L'histoire du chevalier d'Aigrieux et de Manon Lescaut. Ça a été créé à Turin et non pas à la Scala de Milan pour une fois en 1893.
Et voilà.
Et la publicité qui va avec Manon cette semaine, c'est ?
Une publicité faite d'émotions. Ça va nous faire remonter un petit peu dans le temps. Dans le temps où, pour écouter de la musique, il n'était pas facile d'avoir des clés USB, des iPhones, etc. Et où on avait des cassettes,
VHS
pour la vidéo et des cassettes audio. Et donc, le premier pas, c'était de dire que ces cassettes étaient pratiques à transporter pour les mini-cassettes. Aujourd'hui, ça paraît énorme, c'est sûr, mais bon, à l'époque, c'était époustouflant. Mais surtout de dire qu'il y avait une qualité d'émotion musicale qui passait à travers ce son des cassettes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui préfèrent écouter des vinyles ou des cassettes ou des bandes plutôt que des CD ou du MP3. Donc on n'est finalement pas dans du passéisme complètement obsolète. Et donc on voyait une publicité qui était très proche de l'émotion musicale de l'air. C'était une statue de Puccini qui pleurait. On était dans l'arrière d'un opéra, dans la partie où on peut se promener, avant de rentrer dans les loges, où il y avait disposé des statues, comme dans certains théâtres. Et il y avait une statue de Puccini qui pleurait. À l'écoute de son air, donc chanté, non pas par une cantatrice, mais par quelqu'un qui écoutait sur un magnétophone avec une cassette. Et donc l'idée était que l'émotion pouvait même tromper Puccini lui-même.
Tellement donc, la qualité
était magnifique.
Vrai.
Voilà.
Et d'ailleurs, pour la même marque de cassette, une marque allemande, moi j'ai vu une autre publicité qui n'était pas avec Puccini, qui n'était pas avec l'opéra, donc c'est juste pour l'anecdote, ce sont des GI qui sont en Irak, pendant la tempête du désert, je pense, et le plus jeune d'entre eux écoute une cassette audio, où son amoureuse qui est restée en Amérique lui écrit une lettre d'amour, et tous les gros durs GI avec les treillis, le casque sur la tête et tout,
ont tous la larme à l'œil,
on voit qu'ils la retiennent, mais bon, la cassette est tellement émouvante que là aussi, tout le monde pleure.
Donc l'idée, c'est ça, c'est que l'émotion peut passer malgré le média, ou grâce au média, on va dire. Et l'air choisi, donc, c'est l'air, un moment où Manon Lescaut, donc de Puccini, c'est une héroïne qui vit dans le luxe et qui s'étonne dans ce luxe total, de ressentir un manque, un vide, la solitude des bras de son amoureux, le chevalier d'Aigrieux. Alors peut-être je vous propose d'écouter deux versions. Une première version avec Léontine Price, puisque nous avions eu un match à propos de Tosca. On avait écouté Léontine Price et Maria Callas. Il semblerait, d'après nos auditeurs, que Léontine Price ait plutôt gagné la préférence de nombreux. Donc,
Moi
qui le dis, mais c'est mes petits réseaux qui
m'ont dit. On a son audimat.
Voilà, et puis on va essayer de les opposer de nouveau. Et vous m'aviez posé une question sur laquelle je n'avais pas pu répondre tout de suite, tant elle m'avait surprise. Quelles sont les qualités de Callas ? On va essayer de les comprendre en écoutant d'abord Léontine Price dans cet air pendant lequel... Donc on va l'écouter d'abord pour la beauté de l'air et l'émotion qui vient de la beauté. Puis peut-être vous nous direz les paroles et on écoutera Callas.
Oh.
Dans cet extrait, Manon a quitté son amant désargenté, le chevalier des Grieux, pour Géronte, admirateur plus âgé mais fortuné. Installée dans sa nouvelle vie faite de luxe, elle finit par s'ennuyer et songe aux jours heureux passés auprès de son amant des Grieux. Et voici ce qu'elle dit. Dans ses molles dentelles, dans l'alcôve dorée, règne un silence, un froid mortel. Règne un silence, un grand froid qui me glace. Moi qui m'étais accoutumée à la caresse voluptueuse de ses lèvres ardentes, à la chaleur de ses bras, je découvre bien autre chose à présent. Ô mon humble demeure, je me souviens de toi, gaie, solitaire et blanche, comme un tendre rêve d'amour et de paix. C'est beau.
Donc c'est beau, et Léontine Price, avec la volupté de son timbre, nous a fait percevoir toute la richesse, la volupté de Manon d'aujourd'hui.
Et sa déception.
Et moins sa déception, peut-être, c'est sensible, la voix est très bien conduite, il y a de la nostalgie, il y a des sons piano à certains moments, mais il y a toujours un legato crémeux, enfin c'est vraiment onctueux. Et Callas, alors justement, Callas va faire quoi de cet air ? Eh bien, elle va nous replonger dans la psychologie de Manon. Manon est dans le luxe, mais est seule. Il y a un désert au fond d'elle. Et elle va réveiller tous les mots qu'elle va chanter vont être réveillés.
Les mots ou les mots ?
Les deux. Parce que les mots internes vont passer par les mots dits. Et vous allez entendre le froid, le gel, vous allez entendre la paix, vous allez entendre le silence, vous allez entendre toutes ces choses-là. La voix est éminemment moins belle par elle-même, mais tellement plus poétique, mais aussi tellement plus étrange. Et donc cette Manon est tout à fait différente et vous allez pouvoir comme ça voir ce qui vous touche le plus.
Hubert, je sais que vous êtes un grand fan de Léontine Price, moi aussi, mais je dois dire que cette romance de Manon, la deuxième version que nous venons d'entendre par Maria Callas, personnellement, me touche beaucoup plus,
ça va beaucoup plus
m'émeut
loin.
Beaucoup. Je la trouve avec beaucoup, effectivement, de volupté, de tristesse, même de souffrance. Je ne suis pas une grande spécialiste d'opéra comme vous, et au point de pouvoir comparer les qualités de voix, mais je vibre et je ressens beaucoup plus avec cette version de Maria Callas.
Je crois qu'on peut vraiment comprendre sur un extrait comme ça les qualités immenses des deux artistes. Hein. Léontine Prasse a une voix magnifique, elle en fait quelque chose qu'elle arrive à lisser, à rendre onctueux, elle chante merveilleusement bien, elle dit les mots, mais Callas les habite et elle arrive à nous faire accepter des aigus extrêmement stridents et avec un vibrato très large parce que c'est intégré à une souffrance. Manon souffre, et puis le début, elle se parle à elle-même, elle semble se parler tout doucement à elle-même et non pas de déclamer comme le fait Léontine Prasse. Mais ce sont deux façons d'obtenir de l'émotion. Les deux cantatrices ont eu des très très grands succès sur scène, toutes les deux. Et on peut être touché par l'un ou par l'autre. Et ça donne lieu à des batailles rangées chez les amateurs d'opéra qui ne comprennent pas que les autres aiment autre chose. Alors pour ma part, je sais que j'aime les deux.
Moi
et
aussi,
que je veux garder les deux.
Bah, nous n'allons donc pas nous battre, puisque nous
pas
sommes
du tout.
D'accord. Nous aimons les deux, nous allons garder
et
les
l'émotion
deux.
Passe.
Mais c'est vrai que Maria Callas était une grande tragédienne également.
Voilà.
Et que là, c'est une vraie tragédie, puisque Manon va mourir dans les bras de
Descrieux. Elle pressent dans cet air avec Callas, elle pressent sa fin qui sera fatale.
D'abord, elle part en exil.
Elle va partir
en
exil
bateau.
Et mourir dans un désert, à mourir de soif. C'est une mort triste, oui.
De soif d'amour.
Et d'eau aussi, tout clairement.
Voilà. Toute la poésie est cassée. Hubert, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toutes ces émissions. J'espère que nous nous retrouverons l'année prochaine si l'émission continue. Puisque à partir de la prochaine émission, c'est Jean-Marc Andrieux qui viendra faire une chronique à votre place.
En tout cas, je me suis vraiment beaucoup plu en votre compagnie à évoquer toutes ces publicités, ces airs d'opéra. Et j'espère que nos auditeurs aussi ont pu comme ça entendre un petit peu autrement l'opéra.
Merci pour toutes.
Merci
pour toutes ces découvertes et à bientôt.
À bientôt.
Les médias fous de musique. Je voudrais vous signaler, puisque nous parlons de musique en Amérique avec mes invités précédents, de l'émission d'Anne-Charlotte Raymond sur France Musique qui s'appelle Histoire 2. Alors Anne-Charlotte Raymond a consacré tout le mois de mars à la musique américaine et l'émission est téléchargeable pendant un mois. Au mois d'avril, ce sera l'Académie Royale de Musique. En mai, la musique en Europe entre les deux guerres. Et en juin, tout un programme, les duos d'amour. Anne-Charlotte Raymond ne dispose malheureusement que de 15 minutes, c'est-à-dire de 17h45 à 18h tous les jours de la semaine. C'est beaucoup trop courte, car cette émission est une mine d'informations et elle est absolument passionnante. Et Anne-Charlotte Raymond a une voix que vous devez connaître, qui est à faire fondre le plus dur des chocolats. Toulousain sont à l'honneur ce mois-ci, comme tous les mois. Dans le mensuel Classica, Jacques Bonnor consacre une double page au jeune pianiste toulousain Bertrand Chamaillou qui vient de sortir un CD sur César Franck dont nous avons déjà beaucoup parlé. Dans Classica, toujours, Philippe Venturini, grand spécialiste de musique baroque, chronique le disque que vous êtes en train d'écouter, le tout nouveau CD consacré à des transcriptions de Jean-Philippe Rameau par Yves Rachsteiner sur l'orgue historique de Sainte-Gabelle. Je cite Philippe Venturini, il dit l'orgue historique de Sainte-Gabelle, dont la palette si délicate et nuancée permet à Yves Rechsteiner de recréer un théâtre lyrique foisonnant installé dans un espace généreux par la prise de son. La rédaction de Classica attribue 4 étoiles à ce disque, c'est-à-dire presque son choc. Le même CD Rameau d'Yves Rechsteiner, musicien hors pair que nous pouvons souvent entendre à Toulouse les orgues ou bien avec les passions, est décoré d'un diapason d'or, suprême récompense du magazine Diapason, où Xavier Bissaro, qui est lui-même organiste, écrit « Ces transcriptions, il parle de Yves Rechsteiner, ces transcriptions, euphémisme, donnent naissance à un répertoire captivant, grâce notamment à des initiatives ingénieuses dans les arrangements. » Les sites Muse Baroque et Frédéric Munoz sur Res Musica font également l'éloge de ce disque, le premier d'une toute nouvelle collection du label Alpha qui soigne aussi bien la présentation, les photos, les textes que la musique, bien sûr. Nous écoutons donc la danse des sauvages transcrite par Yves Rechsteiner. C'est un extrait des Indes galantes de Rameau. C'est interprété à l'orgue de Sainte-Gabelle par Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget aux percussions. Et je me permets de vous recommander à tous de lire tous les articles qui ont paru sur ce disque et surtout de l'acheter parce que c'est une vraie merveille et nous avons la chance d'avoir Yves Rechsteiner à Toulouse. Folle de musique vous dit au revoir et à jeudi prochain sur Altitude FM.